commence par quoi?
La pêche à la mouche.
On va commencer par monter une canne à mouche, donc on va toutes mes cannes sont en tube. Un tube de sécurité pour les protéger. Et dans chaque tube, on retrouve une housse avec la canne. On remonte la canne. Rien de compliqué là-dessus.
C'est joli une canne à mouche. Hein. C'est un bel objet.
Ouais, souvent, c'est des objets qui sont... pour lesquels on a une attention particulière, tout simplement parce que c'est une pratique particulière et que on a tendance à aimer cette pratique quand on y a goûté. Toujours, j'ai toujours des cannes qui sont démontées, donc je viens, hop, mettre mon moulinet. Et ensuite, je vais passer mon fil. Donc pour ça, bah, tout simplement, je vais sortir du fil. Donc la partie verte, en fait, c'est bien ce qu'on appelle la soie. Donc en fait, c'est cette partie qui va permettre, grâce à l'action de la canne, de jouer sur l'inertie et donc de pouvoir lancer la mouche à des distances relativement importantes ou relativement courtes, mais à pouvoir vraiment la propulser, parce qu'une mouche ne pèse rien en fait. Une mouche, c'est ni plus ni moins qu'un hameçon et il n'y a aucun poids pour pouvoir l'envoyer loin. Donc c'est vraiment la soie qui fait ce travail. Donc on a des cannes, comme je disais tout à l'heure, qui sont plus ou moins puissantes, donc avec des soies qui sont plus ou moins lourdes, hein, puisque les soies ont un poids déterminé. Et grâce à ces soies, on va pouvoir atteindre... Alors, toutes les soies font en moyenne une trentaine de mètres maxi. Donc on atteint 35 mètres pour les meilleurs lanceurs qui sortent un peu de backing derrière la soie, mais ça devient relativement rare. On a vraiment... Alors nous, sur nos rivières, bien sûr, hein, on pêche à 10, 12, 15 mètres grand maxi, sous réserve qu'on ait un plateau. Ce qui se trouve de plus en plus, mais moi je pratique beaucoup de petits ruisseaux où on va avoir des coups très rapides à faire, en fait à peine posé, on se retrouve à relever, à relancer et ainsi de suite avec des petites cannes très courtes. Donc là j'adapte mon badline bien sûr à ce moment-là pour pouvoir faire quelque chose de très précis avec des badlines un peu plus raccourcies de façon à être très précis. Donc là, voilà, donc là, ma soie est passée. Alors derrière, personnellement, moi, j'ai une partie en bas de ligne tissée qu'on aperçoit là. On l'entend bien passer dans les anneaux, en fait, ça crisse un peu. Contrairement à la soie qui, elle, est beaucoup plus douce, on va presque rien entendre. Mais c'est normal. Après, voilà, la partie tissée, et là, dans mon style de montage, ça a toujours été comme ça que j'ai monté mes cannes, c'est vraiment là pour faire cette jonction soie bas de ligne. Ensuite, je vais avoir un badline qui fait environ une fois et demie à deux fois la longueur de canne, en fonction des zones que je vais prospecter. Plus la rivière va être large, souvent plus il va y avoir de courant, plus il va falloir gérer une dérive, et donc plus je vais avoir un badline qui est rallongé, et de façon à pouvoir éviter le dragage de la mouche. Alors c'est pareil, le dragage de la mouche, c'est un terme particulier. En fait, le dragage de la mouche, c'est le moment où le courant va tellement entraîner le fil que votre mouche va créer un sillon sur l'eau. À ce moment-là, c'est plus la peine, en fait, on effraie le poisson, donc sous réserve qu'on ait passé le poste où il y avait le poisson, c'est très bien, parce que du coup, on relève et on essaie de relancer. Malheureusement, si on a dragué avant le passage du poisson, généralement, c'est cuit, on peut changer de poste. Donc là, j'ai monté mon bas de ligne, donc j'ai 5 diamètres de fil dégressif, je pars sur un 35 centième après ma partie tissée, donc en fait, c'est le fil qui est un peu bordeaux ici. Ensuite, je vais avoir un fil de 30 et de 25, puis viennent un fil de 20, donc je me suis trompé en plus, ça fait 6 fils, 20, 16 et 12. Et donc en fait, cette dégression de fil permet d'avoir un posé délicat et surtout d'avoir des longueurs adaptables, puisque c'est en jouant sur les longueurs de diamètre que je vais pouvoir avoir des badlines plus ou moins longs. Ensuite, derrière, ben, je vais juste tout simplement attacher ma mouche hein, avec un nœud très classique. Donc en mouche, on va pouvoir avoir trois grands types de mouches, les mouches noyées, les mouches sèches et les mouches, les nymphes. Donc la nymphe, on va en reparler quand on va parler du toc, tout simplement parce qu'en fait, on a une technique qui apparaît depuis pas mal d'années maintenant, c'est ce qu'on appelle la nymphe au toc.
La pêche au toc.
Alors, la pêche au toc, je reprends ma canne de tout à l'heure, une canne en trois brins. Donc, c'est une canne sur laquelle j'ai un tout petit moulinet, taille 1000. C'est largement suffisant. Au toc, on a souvent des petits moulinets parce qu'on n'a pas besoin d'une longueur de fil excessive. Alors, pourquoi on parle de pêche au toc d'ailleurs? En fait, c'est tout simplement parce que la pêche au toc se fait sans flotteur. C'est une pêche, on va dire, une pêche de sensation, une pêche tactile. Donc moi, personnellement, je suis droitier, donc je tiens ma canne de la main droite. Je vais gérer une dérive, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai posé mon éche dans l'eau, à plus ou moins grande distance, grâce à ma canne, je vais gérer ma dérive et son passage, donc le passage de l'éche de façon la plus naturelle possible dans la zone à prospecter. Souvent, pour la truite, ça reste un courant ou alors une zone de remous dans laquelle elle ne dépense pas trop d'énergie, mais elle va pouvoir facilement attraper de la nourriture. Donc la pêche au toc, son nom vient en fait de quelque chose de très simple. C'est ni plus ni moins que lancer, gérer la dérive, et grâce à ma main gauche, je vais tenir le fil juste au-dessus de mon moulinet de façon un peu tendue, comme ça. Et en fait, au passage, si je sens des tocs dans le fil, c'est assez bizarre hein, parce qu'on n'entend pas le toc, mais on a cette impression vraiment de sentir taper dans le fil. Souvent, c'est signe qu'un poisson est en train d'attraper l'éche. Et à ce moment-là, faut ferrer, tout simplement. Alors, des fois, il peut y avoir des erreurs, surtout quand on débute et qu'on n'a pas l'habitude, parce que souvent, on sent des tocs, et en fait, c'est tout simplement l'hameçon qui passe entre deux cailloux, et ben, quand on ferre, c'est souvent on s'accroche. Donc, ben, on va monter la canne, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est des cannes qui sont beaucoup plus grandes. Et voilà. Du coup, là, j'ai passé mon fil dans les anneaux, bien sûr. Donc, contrairement aux autres moulinets, on n'a pas de bruit hein, sur ce type de moulinet. Quand on ramène, on n'a aucun bruit. Par contre, voilà, on a toujours notre système de frein qui, là, va être beaucoup plus utile qu'à la mouche, par exemple, puisque notre frein va permettre en fait de gérer la sortie du fil du moulinet. Et donc, pour prendre plus ou moins de fil, pour sentir le toc et gérer ses dérives, c'est très pratique. Très pratique. Donc petit moulinet, très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un moulinet très très sophistiqué pour du toc. Par contre, il y a besoin d'avoir un moulinet qui est quand même un frein relativement efficace pour pouvoir gérer cette sensation derrière. Donc maintenant, on va attaquer le montage à proprement dit. Donc le montage, donc sur mon moulinet, j'ai du nylon tout simplement. On va pouvoir, si on le souhaite, faire un badline, donc moi personnellement c'est ce que je fais. Donc j'ai mon nylon, je suis en généralement entre 12 et 14 centièmes, donc plutôt fin. Dessous, je vais faire un badline avec un micro-émerillon. Donc les micro-émerillons en fait, c'est des tout petits émerillons en fait à double entrée qui vont permettre de faire une fixation rapide entre mon corps de ligne, c'est-à-dire le fil que j'ai sur mon moulinet, et mon badline. Donc sachant que mon badline est généralement en 12 ou en 10 en fonction des diamètres de fil de mon moulinet. Donc le bas de ligne, on a la possibilité de le faire soit en fluorocarbone, soit en nylon, tout simplement. Alors moi j'opte souvent pour le fluorocarbone, puisque c'est quand même un matériau fait et développé pour faire du bas de ligne, et qui a une particularité, c'est d'être quand même un peu moins visible dans l'eau qu'un nylon classique. Donc, en fait, une fois mon badling créé sous mon micro-émerillon, donc je rajoute en fait un morceau de fil, hein, tout simplement, en fonction des cours d'eau, je vais rajouter entre 60 et 80 cm de longueur. Je fixe quelques plombs, je fais ce qu'on appelle voilà, ma plombée, plus ou moins étalée. Donc plus mon courant va être important, plus je vais essayer d'avoir une plombée adaptée et essayer d'avoir la dérive la plus naturelle possible pour mon éche, hein, parce qu'il ne faut pas perdre d'idée que c'est ça, c'est qu'il faut que la dérive soit la plus naturelle possible. Ensuite, dessous, je vais mettre un hameçon. Alors l'hameçon, ça va être différentes tailles, bien entendu, en fonction, alors souvent de l'éche qu'on va utiliser. C'est sûr que si on utilise quelque chose qui est très petit contre quelque chose qui est très gros, il va falloir adapter la taille de l'hameçon. Donc généralement, moi, je vais être entre des hameçons de 16 et de 10 au plus gros. Je monte pas au-dessus, ça sert strictement à rien. Des hameçons trop petits, pareil, c'est inutile. Après, le 16, c'est vraiment voilà, pour des toutes petites éches, soit vraiment du tout petit ver, ce qu'on peut trouver et ce qui souvent donne de très très bons résultats. On a beaucoup de pêcheurs qui préfèrent des vers assez costauds, et moi je préfère des fois des tout petits vers très fins. Alors du coup très fragiles à mettre sur l'hameçon, mais qui sont très efficaces. Donc là, voilà, on a vu un montage très simple de pêche au toc, relativement classique. Après, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai une technique que j'aime beaucoup, donc je garde exactement le même matériel. Je garde le même système avec un micro-émerillon, mais je pratique de la nymphotoc. Donc la nymphotoc, c'est pareil, j'ai un badling, sauf que au lieu d'utiliser un hameçon classique avec tout simplement une éche style ver de terre, teigne ou autre insecte, je vais utiliser une nymphe. Donc les nymphes, en fait, ce sont tout simplement des mouches hein, qu'on peut utiliser, bien entendu, avec une canne à mouche. Donc ce sont des mouches qu'on va retrouver ici, par exemple, en haut de la boîte. Ça va être ce type de mouche-là. Donc c'est, en fait, quelque chose qui est fait pour imiter un insecte à un certain stade de sa vie. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple d'un insecte qui vole. Alors on va prendre un exemple relativement connu, c'est l'éphémère. On va avoir plusieurs stades. Là, avec une nymphe, on va être à un stade où l'insecte, en fait, évolue et se dirige vers la surface de l'eau, avant bien sûr d'émerger et de se mettre à voler. Donc quand on a un insecte qui vole, on va utiliser une mouche sèche pour l'imiter. Ou alors qui est vraiment plaqué sur la pellicule, qui va commencer à s'envoler, on est en sèche. Quelque chose qui va être plutôt sur le stade mi-haut, qui va monter vers la surface, on va être en nymphe. Et quelque chose, le stade en fait, où on va être vraiment plaqué au fond, niveau caillou, on va plutôt être sur de la mouche noyée. Vraiment de la mouche qui va évoluer souvent sur des profondeurs relativement basses. Voilà, ça c'était la petite variante de pêche au toc, c'est vraiment la nymphe au toc. C'est une technique qui donne de très très bons résultats. Après, bien entendu, c'est une technique qui demande un peu de connaissance du milieu et des insectes, donc, tout comme la mouche hein, bien sûr, mais c'est surtout une technique où on a besoin de faire quand même quelques sorties avant de bien dominer, parce que là, pour ce type de dérive là, le passage le plus naturel possible est vraiment requis, encore plus qu'un ver de terre.
La pêche au leurre.
Là, du coup, on va passer sur un montage canoleur. Donc cette année, moi, je vais pratiquer plusieurs types de rivières. Des rivières, je parle dès l'ouverture, hein, des rivières plus ou moins larges. Là, on va partir sur une canne qui fait 2 à 8 grammes de 6 pieds 6, donc c'est-à-dire aux environs de 2 mètres. Donc là, on est sur une canne plutôt passe-partout que je vais utiliser sur des rivières relativement larges d'une dizaine de mètres. Sur de la rivière plus courte, j'ai un autre style de canne avec une canne qui fait 1,80 m et où je vais être avec une puissance encore en dessous, entre 0,5 et 5 grammes. Donc c'est vraiment adapté en fonction du milieu. Donc pour la pêche au leurre, en fait, clairement, c'est sûrement le montage le plus simple à faire. Parce que vous avez donc soit votre fil, soit votre tresse sur le moulinet, donc celle-ci va être équipée en tresse. Et derrière, je vais avoir tout simplement un émerillon. Sur ce type de pêche-là, je n'utilise pas de badling, j'ai besoin de rien de particulier. Alors l'émerillon n'est pas forcément nécessaire, en fonction des leurres, bien sûr. Moi, j'en mets un parce que je sais que dès le départ, je vais utiliser certains types de leurres. Donc là, notamment, je sais que sur les 3 premiers postes, étant relativement profond, je vais commencer un peu avec de la cuillère. Bien entendu, l'émerillon est réservé à la cuillère. Quand je vais passer sur du poisson nageur, du petit poisson nageur ou du leurre souple, je vais plutôt utiliser des petites agrafes. Donc les agrafes, en fait, c'est ça. Donc, j'ai plusieurs tailles, hein, bien sûr. Donc en fait, il n'y a pas de petite partie qui va tourner et qui va empêcher le fil de vriller. Parce que sur du leurre souple et du poisson nageur, on ne va pas avoir un leurre qui tourne comme la cuillère, parce que la cuillère c'est ni plus ni moins qu'une palette qui tourne autour d'un axe, donc il va faire vriller du fil. Avec d'autres types de leurres, puisque ça ne tourne pas, le fil normalement ne vrille pas. Donc on va juste utiliser des agrafes. Après, on n'est pas obligé. Moi je sais que souvent ça m'arrive de ne rien mettre et de faire un nœud directement sur le leurre. Ça évite de casser, donc c'est le terme, hein, de casser la nage du leurre, c'est-à-dire d'altérer en fait sa nage, d'éviter qu'il se déporte ou qu'il ne nage correctement. Donc, alors, par contre, petite chose, bah alors, du coup, c'est purement protection du milieu. Il faut juste penser à récupérer les petits morceaux de fil qu'on coupe au bord de l'eau. Ne jamais les laisser dans la nature. Donc, pour ça, il y a des récupérateurs de fil. Moi, je m'en suis fabriqué un personnellement. Ou alors, tout simplement, récupérer le morceau, le mettre dans une poche et puis l'enlever une fois rentré chez soi. Donc là, mon montage, moi, est fait. Mon fil passé dans les anneaux, j'ai mis un émerillon. Et ensuite vont venir les différents types de leurres. Donc les leurres que je vais utiliser cette année, en fait, je vais en avoir quelques-uns ici. Donc bah, bien sûr, des cuillères. Hein, des cuillères, alors, soit relativement classiques, soit des choses un peu plus colorées. On va retrouver ici bon, la bonne vieille cuillère blanche à point rouge, classique, blanche à point noir. Là, j'ai de la jaune à point, de la noire à point jaune, pardon. Différentes tailles, bien sûr, avec ou sans petits pompons colorés au niveau des hameçons. Donc après, on va avoir soit de la dorée, complètement dorée, argentée, mais je vais aussi avoir des cuillères un peu plus colorées, celle-ci par exemple avec du vert, du jaune fluo et puis un peu d'orange. Celle-là avec du marron et du beige, celle-là qui est complètement rose. Donc voilà, j'adapte le type de cuillère en fonction de l'envie des poissons. Après, il ne faut pas oublier que les bonnes vieilles cuillères classiques, entièrement argent ou entièrement dorées, souvent donnent d'excellents résultats. Ensuite, je vais pouvoir utiliser donc des leurres souples. Donc des leurres souples comme je peux avoir, donc par exemple celui-là, qui est l'imitation d'un petit gardon. Alors celui-là est très coloré, pareil, hein, il est vert et orange. Il est pré-plombé, c'est-à-dire qu'en fait le plomb est déjà intégré au leurre, donc celui-là je n'ai qu'à le monter et il pêche. Ensuite, je peux avoir donc ses frères et sœurs. Hein. Petit leurre un peu dans le même esprit, pas tout à fait la même forme, mais le même type de nage. Par contre, celui-là n'est pas pré-plombé, donc je vais, moi, de mon côté, adapter le type de plombage, soit avec des têtes plombées relativement lourdes, c'est-à-dire surtout sur des zones très courantes ou alors assez profondes, ou alors au contraire des plombées très légères, pour éviter justement qu'ils descendent trop rapidement au fond. Vous voyez qu'encore une fois, coloris, j'ai du pailleté, j'ai du neutre, j'ai du coloris naturel, j'ai ce type de leurre-là. Alors ce type de leurre-là, c'est vraiment typé de truite un peu plus grosse. Hein. Ça reste un leurre souple, mais avec une petite palette derrière. Ça marche très très bien. Une petite imitation de perche, un peu tous les coloris. Grosso modo, si je devais conseiller quelque chose, je dirais que dans sa boîte, il faut relativement trois coloris différents. Quelque chose de très flash, quelque chose de naturel et quelque chose de plutôt incolore, donc plutôt transparent. Et ensuite, je vais avoir, donc on retrouve quelques leurres souples hein, dans cette boîte, je vais avoir ce qu'on appelle des poissons nageurs, ou leurres durs, ou voilà, ce que d'autres personnes appellent des rapalas. Donc là encore, j'ai un peu de choix dans cette boîte-là, encore que c'est pas la plus remplie, mais je vais retrouver des poissons nageurs, donc avec des formes différentes, des bavettes, donc c'est la partie devant en fait, hein, qui permet la nage différente, ce qui va permettre de faire évoluer à des profondeurs plus ou moins importantes. Alors souvent pour la truite, on a peu de fond, donc on va éviter tout ce qui s'appelle des crancs, en fait, ces petits poissons qui ont tendance à descendre au fond. Donc on va réserver vraiment sur des zones plus profondes. Alors sauf si on a la chance d'avoir des rivières où des fois on peut trouver des trous qui font à peu près 2,50 m, 3 m de profond. Et là ça peut donner de très bons résultats. Généralement on va plutôt utiliser des petits poissons dans ce style là, style jerk. Encore une fois, on voit que esthétiquement on peut trouver un peu de tout. J'ai de l'imitation de Véron, j'ai tout simplement une imitation de petite truite ici. Hein. Donc on a plein de marques hein, qui en font. On a des marques plutôt bon marché, on a des marques très chères. Alors en fonction des envies, des possibilités de chacun, après on détermine nos besoins. Moi j'ai quelques leurres là, assez passe-partout, imitation un peu Véron et Alvin, ça marche très bien, c'est des grands classiques. Les coloris dorés aussi marchent bien dès l'ouverture. Après voilà, il me reste encore quelques leurres souples, donc on voit encore qu'une fois j'ai quand même un peu de coloris flash. Il faut pas hésiter dès l'ouverture souvent à mettre un coloris des fois un peu pétard, alors surtout si les eaux sont teintées. Moi j'aime bien justement avoir quelque chose qui se voit bien. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais généralement quand on commence à prendre quelques poissons, on sait que c'est quelque chose qui va durer un peu sur la journée. Après voilà, le coloris naturel, c'est quelque chose qui marchera toujours. Plus on va, moi je suis très fan des coloris naturels et des coloris qui se rapprochent de l'environnement. Après ouais, je suis pas contre mettre quelque chose de complètement atypique. Un exemple sur un autre type de pêche, hein, c'est la pêche du brochet, les leurres roses et jaunes fluo, des fois on se dit ouais, on n'en trouve jamais, pourtant ça marche. C'est des fois c'est ce couleur qui provoque l'agressivité du poisson tout simplement. Ou sa curiosité.
Avant de se dire au revoir, où est-ce qu'on va les trouver ces truites-là, autour de Vassivière par exemple?
Alors, autour de Vassivière, c'est une très bonne question. En fait, beaucoup de personnes pensent que la truite a un peu disparu, voire certains ruisseaux en sont complètement dépourvus maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait une population qui était peut-être répartie de façon différente. Maintenant, honnêtement, autour de Vassivière, on en trouve partout. Quelqu'un qui sait pêcher, qui va. Alors, qui sait pêcher, pas forcément de façon très pointue, hein, mais qui va s'intéresser au milieu, qui va savoir observer, il va trouver du poisson. Que ce soit. Donc, je prends un exemple de rivière que je pêche, hein, que ce soit vraiment une rivière large comme la Vienne, la Maulde, un peu plus haut sur le plateau, vous allez pouvoir tomber sur la Vézère aussi. La Vézère, bien sûr, a de la truite. Mais vous pouvez aussi trouver donc du tout petit ruisseau, ce que moi j'appelle encore, mais ça c'est une déformation familiale du Kirigayou, qui va faire 40 cm de large avec des petits trous. Voilà, clairement, hein, c'est des petits trous qui font 50-60 cm de profond, des petites zones un peu noires. Ces petits ruisseaux qui traversent les prés. En fait, il faut pas oublier que les truites viennent se reproduire dans ces ruisseaux. Alors attention, hein, il ne faut pas aller attraper forcément les géniteurs, mais mine de rien, en fait, tous ces petits ruisseaux, ce qu'on appelle en fait le réseau de chevelu, va descendre dans une rivière toujours plus large, donc par exemple la Vienne, et les truites de la Vienne vont remonter dans ces ruisseaux. Donc les ruisseaux en sont très rarement dépourvus. Alors même si il peut arriver que sur certaines zones, on ait en fait soit des embâcles, soit des modifications tout simplement naturelles, hein, qui empêche la truite de remonter, puisque la truite n'est pas un poisson qui suit le courant, mais qui remonte à contre-courant. Donc ça peut empêcher le poisson de remonter. Donc effectivement, des fois, ça peut expliquer la disparition de certaines populations de truites dans certaines zones de ruisseaux. Mais c'est relativement rare. Maintenant, on travaille énormément et on peut remercier la fédération départementale pour ça. Ils travaillent énormément, notamment donc sur notre APPMA, sur la continuité du milieu et la restauration de ce milieu en essayant de supprimer tous ces embâcles, en permettant aux poissons d'aller se reproduire dans de bonnes conditions. Et nous, de notre côté, on essaye au maximum de les aider, alors soit en participant aux travaux, bien entendu, mais aussi en essayant de recréer des frayères. Puisque des fois les frayères sont altérées. Donc pour ça, il y a quelques protocoles à suivre. Mais on recrée des frayères pour donner un biotope le meilleur en fait pour le poisson et pour sa reproduction. Donc la pêche, c'est pas que aller prendre du poisson, hein, c'est permettre à ce poisson de vivre, de se reproduire, de vivre dans de bonnes conditions, de se développer. Et voilà, c'est quelque chose pour nous qui nous tient à cœur. Et on a besoin de ça, parce que sinon le poisson serait voué à disparaître, même si on a quand même une génération de pêcheurs maintenant qui arrivent, qui pratiquent beaucoup du no-kill, c'est-à-dire qu'en fait on prend un poisson, on le remet à l'eau dans les meilleures conditions possibles. Alors dans l'absolu, on essaye de le toucher le moins possible. C'est pour ça que souvent on a des épuisettes, des hameçons sans ardillon, parce que ça permet de décrocher le poisson sans le toucher, hein, il suffit d'attraper son leurre ou son éche, et puis hop, ça se défait tout seul, et le poisson repart à l'eau sans avoir été manipulé, en sachant que le cœur du poisson est relativement bas, et que souvent quand on attrape un poisson, on a tendance à comprimer la cage thoracique. Donc c'est pas forcément dans les meilleures conditions qu'il peut repartir.
Ce samedi, c'est l'ouverture générale, donc l'ouverture de la truite, pour ceux qui s'y mettraient, ou peut-être pour ceux qui s'y sont déjà mis, qui sont déjà en train de la pêcher. C'est quoi le conseil qu'on pourrait donner pour attraper de la truite?
Ah, les conseils sont nombreux. Le conseil que je donnerais cette année, c'est, alors, première chose, d'aller sur une zone qu'on a envie de pêcher, qu'on a soit envie de découvrir ou qu'on connaît déjà et sur laquelle on a confiance, d'adapter son montage, bien entendu, et sa technique en fonction des conditions. Pour l'instant, ça va dépendre un peu de la météo. Il va sûrement repleuvoir un peu. Pour l'instant, il a fait bon, donc les eaux ont rebaissé. Elles vont peut-être se reteinter un peu avec les pluies qui arrivent. Donc, sur de la pêche au leurre, plutôt quelque chose soit de naturel, soit de flash. Vraiment quelque chose avec une couleur un peu vive. Sur du toc, je conseillerais de rester sur du classique, du vert ou alors vraiment de la nymphotoque. comme j'ai pu en parler tout à l'heure. Sur de la mouche, c'est un peu plus particulier parce que la mouche, en fait, il faut regarder à l'instant T. Ça va dépendre éventuellement des insectes qui peuvent éclore, parce qu'on parle d'éclosion à ce moment-là. Mais la chose que j'ai envie de dire, c'est prenez du plaisir. Allez au bord de l'eau, respirez l'air frais, surtout dans les temps actuels où respirer, ça fait du bien quand même. Et puis prenez du plaisir, allez à la pêche tout simplement, un bol d'air frais, touchez l'eau. Si vous prenez du poisson, ça sera très bien. Mais je pense que rien que le fait d'aller au bord de l'eau, ça fait déjà plus grand bien.
Clément Mazouffre, merci.
De rien, avec grand plaisir.
Et le mot de la fin, ce serait...
Prenez du plaisir et bonne ouverture à tous.